Santé pour tous. Santé pour tous. Santé pour tous, tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bollot. Interview, reportage et dossier ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Que ton aliment soit ta première médecine, malgré une alimentation équilibrée et diversifiée, notre organisme souffre de carences. Pour la naturopathie, les intestins et le côlon ont un rôle crucial sur la santé. De nombreux facteurs agressent la flore intestinale au quotidien et déséquilibrent le bon fonctionnement du côlon. Ces agressions peuvent avoir pour conséquence des troubles intestinaux, un système digestif qui fonctionne au ralenti ou encore des maux liés au syndrome du côlon irritable. La naturopathie préconise le respect d'une hygiène de vie avec hygiène alimentaire. Ainsi, la naturopathie recommande une alimentation variée et de bonne qualité. Vous trouverez aisément les produits alimentaires bio sur nos marchés et votre magazine de santé sur Radio de la Paix ce jour s'intéresse aux aliments à éviter, ceux à favoriser et à une bonne hygiène de vie. Pour ce, nous serons en ligne avec une naturopathe à Thionville, commune française dans le département de Moselle, en Lorraine, dans la région administrative Grand Est. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix.
Bonjour Claire Amblard-Romain, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes naturopathe à Thionville. Dites-nous, c'est quoi la naturopathie ?
La naturopathie, c'est avant tout une médecine préventive qui vise à maintenir ou à rétablir la santé par des moyens naturels. La naturopathie va chercher à rétablir les capacités d'auto-guérison inhérente à chacun. On a cette capacité de s'encrasser, mais on a aussi cette capacité à s'auto-guérir, donc ça c'est très important. Va s'appuyer sur les points forts pour contrebalancer les faiblesses. Donc pour ça, le naturopathe, il va établir un bilan de vitalité et puis par différents moyens, va estimer les surcharges et les carences et il va stimuler le corps pour pouvoir renforcer ses capacités.
Quels sont les piliers fondamentaux de la naturopathie ?
Les quatre grands principes en naturopathie, c'est surtout et d'abord ne pas nuire. Hippocrate disait, face à la maladie, il faut avoir deux choses à l'esprit, faire du bien ou au moins ne pas faire de mal. La deuxième chose, c'est la nature recèle son propre pouvoir de guérison. Donc quand on écoute les mots du corps, on va pouvoir faciliter l'accès aux forces de guérison du corps et puis éliminer les obstacles qui s'opposent à la guérison. Le troisième pilier, c'est découvrir et traiter la cause. Et donc, le rôle du naturopathe, ça va être vraiment de remonter le plus loin possible pour essayer d'aller vraiment à la racine et pour ramener un équilibre naturel. Et puis enfin, le rôle du naturopathe, c'est d'enseigner, c'est vraiment rendre l'individu autonome et responsable de sa propre santé en lui transmettant les principes de vitalité.
Avec tous ces changements, quelle est la situation de l'espérance de vie aujourd'hui face à toutes ces maladies ?
Notre espérance de vie a diminué parce qu'en fait, plus on vieillit et moins on vieillit bien. Et donc, se rendre compte, c'est que l'espérance de vie sans incapacité, et c'est quoi être en incapacité ? C'est être en incapacité de se laver, être en incapacité d'aller faire ses courses. En fait, c'est une certaine autonomie. Et bien, quand on regarde en 2010, donc pour les hommes, c'est 61 ans et pour les femmes, c'est 63 ans. L'espérance de vie à la naissance, pour les hommes, elle était de 78 ans et pour les femmes, de 85 ans. Donc, en fait, il y a une vraie régression de l'espérance de vie ou on va dire une accélération de cette incapacité, c'est-à-dire qu'on vieillit certes plus longtemps, mais on vieillit en même temps plus mal.
Qu'est-ce qui peut être bon pour nous en termes d'alimentation, que favoriser et de quoi nous méfier ?
En fait, tout ce qui va être à bannir, c'est tout ce qui va entraîner une maldigestion. Parce que tout ce qui est mal digéré, en fait, va entraîner des toxines et peut-être potentiellement nocif pour l'organisme. Donc, le gluten et particulièrement le blé, en fait, pose problème à l'heure actuelle parce que peut-être que vous en avez entendu parler. Le blé a été extrêmement modifié depuis les années 80 pour répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire sans jamais se soucier de notre système digestif. En fait, la problématique vient surtout du blé puisque, comme je vous le disais, c'est le blé qui a été modifié. Par la modification qui a été produite, en fait, il est devenu particulièrement indigeste parce qu'il est particulièrement collant. Et quand il va aller de la barrière intestinale, il va créer une perméabilité intestinale. Et en créant cette perméabilité intestinale, il va entraîner un intestin poreux. Et quand on a un intestin poreux, en fait, on crée des inflammations. Et là, ça va être le lit de toutes les maladies auto-immunes et bien plus, puisque quand l'intestin est poreux, en fait, par le biais du nerf vague, cela va remonter au niveau du cerveau et cela va entraîner des problématiques au niveau nerveux. Donc, on peut avoir les maladies d'Alzheimer, les démences, les schizophrénies. L'autre facteur qui fait qu'on digère mal le gluten, donc je vous ai expliqué qu'il a été modifié. Et dans cette modification, en fait, il y a énormément de présence de métaux lourds, énormément de pesticides. Et tout ça, ça va entraîner des perturbations au niveau de nos propres enzymes. Et donc, ça va enclencher des difficultés à digérer. Plus il y a de métaux lourds dans notre alimentation, plus ça va prendre la place de l'oligo-élément sur les récepteurs de enzymes et donc plus on va avoir de mal à digérer. Parce que pour certaines personnes, ça va même devenir problématique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont devenir intolérants au gluten, c'est ce qu'on appelle les maladies cœliaques. Et pour ces maladies cœliaques, en fait, il va falloir adapter l'alimentation à cette problématique de façon à pouvoir réparer la barrière intestinale et permettre à la personne de pouvoir vivre sans douleur. L'arthrose peut aussi être provoquée par une intolérance ou une sensibilité au gluten. L'eczéma, tout ce qui va être maladie de peau, peut être aussi dû à cette intolérance au gluten. Le deuxième produit qui est vraiment à bannir de notre alimentation, c'est le sucre. Le sucre attire le sucre. Notre consommation a terriblement augmenté au niveau du sucre. Et le sucre se comporte comme une drogue. Ça devient une vraie dépendance, tant au niveau physique qu'au niveau psychique. Donc, on va le retrouver dans différentes choses, dans les sodas, les barres chocolatées, dans des préparations salées, dans des conserves, dans des plats cuisinés. Le sucre, donc, il va entraîner l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Il va également favoriser le développement de certains cancers, notamment celui du côlon, de l'estomac, du pancréas, le cancer de l'utérus et le cancer du sein. Donc, le sucre, une fois qu'il est dans la barrière intestinale, il va attaquer la flore bactérienne, il va affaiblir nos défenses immunitaires, il va favoriser la fermentation intestinale et il va être propice au développement de mycoses intestinales et aux cellules cancéreuses. Le sucre, il entraîne un vieillissement prématuré des tissus de l'organisme et même de la peau. Alors, le problème du sucre, c'est que c'est un vrai cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va en avoir un petit peu sur la langue, en fait, ça va déclencher une production de dopamine, c'est l'hormone du bonheur qui est liée à la gratification. Et puis, si on la stimule trop souvent, en trop grand quantité, bah, ça va devenir un vrai problème. On n'aura plus le contrôle dessus. Plus on va en manger, bah, plus on sera fatigué, plus on aura envie d'en manger. Et là, on va commencer à tomber malade progressivement. On va avoir de plus en plus de mal à se concentrer. On va devenir plus hyperactif et plus stressé. Le sucre va jouer également un rôle sur la mémoire, d'où l'importance pour les enfants, de ne pas trop leur donner de sucre, leur donner des fruits, surtout pas de sucre, on va dire, industriel, parce que ça va avoir vraiment une importance sur leur comportement et sur leur faculté d'apprentissage. Le sucre va avoir aussi un impact sur votre humeur. Une envie impulsive de sucre peut provoquer des changements d'humeur, de l'irritabilité, également de la fatigue. Et puis, plus on va en consommer, plus on peut aller jusqu'à l'anxiété, voire jusqu'à la dépression. Donc, le sucre, vous le comprenez, il n'est pas bon à la santé. Alors, particulièrement le sucre blanc, il est très acidifiant. Et quand on mange du sucre, on peut se dire que derrière, quelque part dans le corps, de l'inflammation qui va apparaître.
Est-ce que cela veut dire que nous devons sortir le sucre de notre alimentation ?
Il n'est pas du tout question d'enlever tout le sucre, ni il est question d'en faire bon usage. Et le sucre de coco peut être quelque chose d'intéressant, puisqu'il est riche en vitamine B. Le sirop d'agave peut également être très intéressant. Donc le sirop d'agave qui s'utilise plutôt en cru. Pour les gens qui ont du diabète, on va plutôt aller sur du xylitol, qui est du sucre de bouleau. Ensuite, on a la viande, qui est mangée en grande quantité. En fait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Et en fait, ils sont plusieurs médecins américains à avoir fait des recherches, chacun à différents endroits, pour arriver aux mêmes conclusions. Donc, il fait la conclusion que la consommation forte de produits animaux a une très forte tendance à développer un cancer. Alors, on pourrait se poser la question de l'augmentation des cancers actuels dans notre société depuis plusieurs années, suite à l'implantation de tous ces fast-foods autour de chez nous. Ensuite, on a les produits laitiers. Toujours pareil, il n'est pas du tout question de dire surtout ne pas manger. Il va falloir adapter pour chacun. Les produits laitiers contiennent des sucres et peuvent être extrêmement acidifiants. Et ils peuvent être également extrêmement déminéralisants. Il y a eu une étude qui a été faite par plusieurs chercheurs à Harvard qui montre que les nations qui mangent le plus de produits laitiers ont plus de fractures de hanches. Et donc, c'est donc un indicateur clé de l'ostéoporose, que les protéines animales tendent à créer en fait énormément d'acidité au niveau de notre corps. Et c'est ça qui va créer nos problématiques inflammatoires. Et quand on continue dans l'inflammation, eh ben, ça peut également causer des cassures. En fait, que ces produits sont acides et que pour combattre cette acidité, le corps va faire appel à des tampons. Et ces tampons, il va les chercher directement dans le calcium des os pour pouvoir assimiler en fait l'excès d'acide. Et c'est à ce moment-là que nos os vont être affaiblis et vont casser. Quand les produits laitiers sont allégés en gras, leur protéine est également plus grande proportionnellement au total. Donc on a plus de protéines et moins de gras. Et quand on compare ces produits allégés en gras au cancer de la prostate, la relation est aussi forte que les cigarettes et le cancer du poumon. Donc, se dire que prendre des produits allégés, ça sera mieux, pas du tout, bien au contraire.
Alors, dans tout ceci, quel sera le rôle des plantes ? Parlez-nous surtout de leur capacité.
Les plantes, elles ont la capacité de prendre l'azote de l'air, de casser les molécules et d'incorporer l'azote aux acides aminés, ce qui va donner des protéines. En fait, quand on mange de la viande, eh ben, c'est juste une protéine végétale qui a été avalée par l'animal. Donc, autant aller directement sur la protéine végétale, puisque c'est surtout celle-ci qui va profiter le mieux à notre physiologie. Il ne faut pas oublier que nous sommes proches des primates et que les primates, ils tirent leur nourriture d'abord des plantes et de 3% d'insectes. Les omnivores ont un acide stomacal très puissant pour digérer les viandes, pas les frugivores. C'est parce que la viande va putréfier dans les intestins. Et donc, chez les humains, les canines, si vous regardez bien, elles sont devenues très petites, arrondies, et elles fonctionnent comme des incisives accessoires.
Qu'en est-il des aliments dont la composition implique un effet actif sur la santé du consommateur?
Ce sont les aliments, les alicaments qui vont pouvoir devenir vos médicaments. Effectivement, à partir du moment où on n'aurait pas de pesticides, pas d'engrais, pas de médicaments, on n'aurait pas besoin de compléments. L'objectif, c'est d'abord de fonctionner avec l'alimentation. Donc, pour pouvoir fonctionner avec l'alimentation, la première des choses, ça va être les légumes, particulièrement les légumes verts. Mais faites-vous plaisir, faites des assiettes colorées. Les légumes peuvent être mangés et doivent être mangés en cru. Alors, toujours pareil, en fonction de la possibilité de digérer, de votre difficulté ou pas à digérer, en cru, en jus ou cuit à la vapeur. Les légumes sont riches en vitamines, en antioxydants, en fibres, en minéraux. Ils ont des enzymes qui vont nous aider à digérer, donc ils sont extrêmement importants. Les légumes verts sont assez chargés en potassium, donc ce qui va être très intéressant au niveau de la pression circulation artérielle au niveau des reins. Plus le légume sera vert et plus il sera nutritif. Les légumes verts aident dans certains cancers, comme celui de l'intestin, de la bouche ou du larynx. Ils aident à lutter contre l'obésité et le diabète. Donc, on va dire tous les légumes verts sont basifiants. Il y a toujours des exceptions, mais voilà, globalement, tous les légumes éloignent les maladies cardiovasculaires et ils améliorent le transit.
Et pour les fruits, que savoir précisément sur leur importance ?
Les fruits sont astringents, ça veut dire qu'ils vous permettent de vous auto-nettoyer. Ils sont riches en fibres, ils sont indispensables au niveau du transit. Ils amènent un sentiment de satiété et ils régulent la vidange gastrique. Nous avons les graines germées. Les graines germées, en fait, le processus de germination en fait, va démultiplier les propriétés naturelles qui sont contenues dans les graines et ça va permettre de faire le plein de vitamines et de minéraux sous des toutes petites forme. En fait, ce sont des très bonnes protéines végétales. Elles sont remises au goût du jour à l'heure actuelle. Ça permet vraiment de retrouver un peps autant dans l'assiette que dans la bouche. On a également les oléagineux. Les oléagineux, ils vont être riches en acides gras insaturés, comme le poisson. Ils vont permettre de rééquilibrer le taux de cholestérol. Alors, les oléagineux, ils sont d'autant plus assimilables par le corps qu'ils sont réhydratés, c'est-à-dire on les trempe dans l'eau la veille pour le lendemain. À ce moment-là, donc, on va les rendre biodisponibles parce qu'il va y avoir une disparition des enzymes inhibitrices. Ils vont être deux fois plus nourrissants, ils vont être moins caloriques, oui, beaucoup plus nourrissants. Vous allez arriver à satiété beaucoup plus facilement. Quand on a des pulsions de sucre et que l'on prend des oléagineux, en fait, on arrive par ce biais-là à calmer ces grosses fringales de sucre. Dans les oléagineux, on a les noix, les amandes, les pistaches, les pins, les noisettes. Dans l'idéal, tout doit être réhydraté. Attention juste à la cacahuète qui peut être pas mal modifiée. Les oléagineux sont rassasiants, nutritifs. Ils vont vous aider à vous sentir nourri correctement. Ce sont également des bons antidépresseurs. Ils aident à réduire le stress, à vous détendre, à vous relaxer. Ils peuvent également diminuer les risques de ballonnement, les maux de ventre. Ce sont une très très bonne source de fibres et puis ils aident également à réguler la glycémie. Ensuite, on a les huiles. Donc, les huiles, elles sont d'une importance assez capitale puisque au niveau du cerveau, on a besoin d'eau et d'huile. Au niveau des articulations, on a besoin également d'huile. Et au niveau du système immunitaire, au niveau de la sphère intestinale, on a également besoin d'huile. L'huile, c'est une grande source d'énergie. Donc, on va retrouver dans les huiles les acides gras saturés qui vont être bons pour l'organisme en petite quantité parce qu'ils vont favoriser la prise de poids. Puis, ils vont également favoriser les maladies cardiovasculaires. Mais donc on va retrouver ça par exemple dans les fromages gras, dans les viandes grasses, dans la charcuterie, dans le beurre. Mais manger, on va dire en petite quantité, c'est quand même riche en vitamines A, D, E et K. Donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on a les acides gras insaturés qui forment les lipides, qui vont jouer un rôle très important au niveau de la synthèse des hormones. Ils vont aider à combattre la tension artérielle. Et on va retrouver ça dans les œufs, les poissons gras, les huiles végétales. Les acides gras essentiels tels que les oméga-3 ou oméga-6. Donc les oméga-3 sont plutôt anti-inflammatoires, les oméga-6 plutôt pro-inflammatoires. Mais il va falloir un petit peu des deux, même un petit peu des trois, puisqu'on a aussi des oméga-9. Donc il va falloir jouer avec, créer un équilibre, comme toute notre alimentation, afin de lutter contre les troubles cardiovasculaires, l'hypertension, et puis on a également les avocats qui vont être bien intéressants. L'autre chose dont je voulais vous parler comme alicament, c'est le chocolat cru. C'est vraiment très intéressant. Donc ce sont des fèves de cacao qui sont fermentées, séchées, qui n'ont pas été torréfiées et qui sont assez alcalinisantes, qui vont subir un processus qui ne va pas dépasser les 40 degrés, je crois. Donc ce qui permet vraiment de conserver les qualités nutritives du cacao. De cette façon, le cacao cru, c'est un aliment qui est particulièrement riche en magnésium. C'est un aliment qui est très riche en antioxydants. Il est également très riche en flavonoïdes. Donc, il va travailler comme anti-inflammatoire et effet protecteur sur les maladies cardiaques, sur le cholestérol, sur la pression sanguine, sur l'immunité. Il est très riche en fer, très riche en zinc. Il est très riche en vitamine A, B, B1, B2, en vitamine C, en vitamine D, en vitamine E. Il contient du phosphore, du potassium, du calcium. Donc, c'est vraiment, vraiment un super, super aliment. Voilà.
Merci infiniment.
Radio de la paix.
que ton aliment soit ta seule médecine. Cette citation d'Hippocrate est mondialement connue. Celui que l'on nomme aussi le père de la médecine croyait dur comme fer que notre alimentation dépend essentiellement de notre santé. Parmi les résultats d'études les plus importants en matière de micronutrition, on peut noter la prévention de maladies inflammatoires, de carences, de maladies neurodégénératives ou cardiovasculaires. La micronutrition a également un rôle important dans la gestion du stress et de la fatigue. Grâce à son effet direct sur les éléments de l'axe d'hypothalamo-hypophysaire autoroute entre le cerveau et les glandes surrénales à l'origine de notre adrénaline. On en parlait en ligne avec Claire Amblard-Romain, naturopathe à Thionville, commune française dans le département de Moselle en Lorraine. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.